VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Dakar, 14h à N'Djamena, bienvenue à notre journal. La lutte contre Boko Haram, environ 9 200 000 personnes ont besoin d'aide alimentaire dans le bassin du lac Tchad, théâtre d'atrocités du groupe islamiste nigérian. C'est ce qu'a indiqué aujourd'hui le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU, OCHA. Environ la moitié de la population de la région est affectée. Selon OCHA, le conflit dans la zone a exacerbé l'insécurité chronique dans la région, ainsi que la malnutrition et accru de manière catastrophique la vulnérabilité des habitants, ce qui a engendré la plus grande crise de déplacés en Afrique avec plus de 2 400 000 personnes qui ont fui leur foyer à cause des violences et des mesures anti-insurrectionnelles comme l'évacuation de zones entières et les interdictions de voyager ou de commercer. Le secrétaire général adjoint de l'ONU pour les affaires humanitaires et coordonnateur des secours d'urgence, Stephen O'Brien, a entamé aujourd'hui pour le Niger une mission de 4 jours qui le conduira également au Nigeria. Demain, il se rendra à Difa, dans le sud-est du Niger, proche du Nigeria, qui abrite plus de 200 000 réfugiés et déplacés internes à cause de Boko Haram. Les 18 et 19 mai, Stephen O'Brien sera à Maiduguri, le berceau de Boko Haram dans le nord-est du Nigeria. Et toujours au Nigeria, l'armée a annoncé aujourd'hui avoir appréhendé plusieurs suspects en rapport avec les attaques perpétrées récemment contre des installations pétrolières. Nous avons procédé à des arrestations ce week-end à proximité des lieux touchés par les récentes attaques dans le delta du Niger, dans le sud du pays, a déclaré à l'AFP une source militaire faisant partie de la force conjointe militaire et policière chargée de la sécurité dans la région. Un mouvement nommé les Vengeurs du Delta du Niger a revendiqué la récente explosion dans une plateforme gérée par le groupe pétrolier américain Chevron et une autre attaque contre les installations du groupe anglo-néerlandais Shell. La production quotidienne au Nigeria est passée de 1 900 000 à 1 700 000 barils par jour, soit son niveau le plus bas depuis 1994. Et on reste au Nigeria où les syndicats ont appelé à une grève illimitée mercredi pour protester contre l'augmentation soudaine du prix de l'essence à la pompe. Le gouvernement nigérian souhaite des consultations aujourd'hui avec les syndicats en question pour essayer de les convaincre de renoncer à l'arrêt de travail. Idriss Fall.
Le Nigeria Labour Congress et le Trade Union Congress ont donné au gouvernement jusqu'à demain mardi à minuit pour réviser entièrement la hausse du prix de l'essence. Ces puissantes centrales syndicales avertissent que le débrayage devrait affecter les banques, ports et aéroports, les marchés et administrations. Bref, menace d'une paralysie totale. Mercredi, Abuja a relevé les prix du carburant de 67%, passant de 86 à 145 naira. Une hausse vertigineuse après des mois de pénurie. Pendant des mois, il y avait de longues files d'attente devant les stations d'essence. Le pays manque de devises étrangères car subit de plein fouet la baisse des cours du pétrole qui fournit 70% des revenus. Le premier producteur de pétrole du continent est contraint d'importer son carburant pour maintenir un bas prix à la pompe. Le gouvernement paye une subvention. En janvier 2012, Abuja avait tenté de mettre fin à ces subventions. Il s'en était suivi de violentes manifestations qui avaient obligé le gouvernement à renoncer à la mesure.
En RDC, la cour d'appel de Lubumbashi dans le sud-est du pays a reporté aujourd'hui au 6 juin la réouverture du procès de 34 bantous et pygmées accusés de crimes contre l'humanité et de génocide lors d'affrontements en 2013 entre leurs deux communautés. La cour a constaté l'absence des victimes et accorde 3 semaines pour leur acheminement à Lubumbashi, a déclaré la juge Makongo Lenge en soulignant que seules les victimes peuvent éclairer le tribunal dans sa quête de justice dans cette affaire. Depuis 2013, dans le nord du Katanga, les affrontements entre des combattants bantous de l'ethnie Luba et leurs adversaires pygmées du sous-groupe Batwa ont souvent donné lieu à des tueries, pillages, incendies de villages et déplacements de populations, ce qui a conduit à l'inculpation en juillet 2014 de 34 bantous et pygmées pour crimes contre l'humanité et génocide. Rwanda, plus de 1500 Burundais installés pour la plupart de longue date en territoire rwandais ont été expulsés du pays depuis vendredi. Kigali les considérant comme des immigrés illégaux, selon des sources officielles rwandaises et burundaises. Le gouvernement rwandais, qui entretient des relations glaciales avec son homologue du Burundi voisin, souligne que ces expulsions interviennent dans le cadre de contrôles réguliers et ne visent pas particulièrement les Burundais. Mais un officiel rwandais qui a tenu à garder l'anonymat a également déclaré à l'AFP que des milliers de Rwandais victimes de mauvais traitements avaient fui le Burundi depuis le début de la crise dans ce pays en avril 2015 et que les Rwandais en situation irrégulière au Burundi étaient systématiquement expulsés. Selon Philippe Ngabonziza, administrateur de la commune burundaise de Ntega, frontalière du Rwanda, 1320 Burundais expulsés par les autorités rwandaises sont arrivés dans sa localité entre vendredi et dimanche. 218 autres ont été accueillis pendant la même période dans la province burundaise voisine de Ngozi.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au commence, c'est officiel depuis hier, l'ex-putschiste Azali Assoumani a été élu président selon les résultats proclamés par la Cour constitutionnelle. Plus de détails avec Lionel Gaïma.
La Cour constitutionnelle a proclamé hier Azali Assoumani président de l'Union des Comores pour un mandat de 5 ans. Il a obtenu plus de 41% de voix et son rival Mohamed Ali Sohili, dit Mamadou, plus de 39% de suffrage. Azali Assoumani était arrivé légèrement à la tête du deuxième tour le 10 avril. Ce scrutin a été émaillé d'actes de violence. La justice comorienne avait donc ordonné la tenue d'une partie dans 13 bureaux et Assoumani a conforté son avance. Le camp de Mamadou a reconnu sa défaite. Le nouveau président sera investi le 26 mai. Cet officier de 57 ans va retrouver le palais présidentiel pour la seconde fois. Il y avait déjà vécu après un putsch en avril 1999, alors que le pays traversait une crise sécessionniste. Il était resté au pouvoir jusqu'en 2006 avant de le céder à Ahmed Abdallah Sambi. Ses détracteurs aiment rappeler qu'en 1995, lors d'un affrontement armé avec les mercenaires conduits par le français Bob Denard, Azali Assoumani avait abandonné ses hommes pour se réfugier à l'ambassade de France.
Conflit en Libye, des ministres des Affaires étrangères européens, leur homologue des pays voisins de la Libye et le secrétaire d'État américain John Kerry se réunissent aujourd'hui à Vienne en Autriche pour discuter du chaos qui règne dans le pays. Cette réunion se déroule à un moment crucial. D'une part, les djihadistes du groupe État islamique ont récemment étendu leur influence à l'ouest de la ville libyenne de Sirte, qu'ils contrôlent depuis juin 2015. Et d'autre part, le gouvernement d'union nationale parrainé par l'ONU peine à asseoir son autorité. Plus d'un mois et demi après sa prise de fonction à Tripoli. Conflit en Irak, les forces irakiennes ont lancé aujourd'hui une offensive pour reprendre aux djihadistes du groupe État islamique la ville de Rutba dans la province d'Al-Anbar. C'est ce qu'annonce le commandement conjoint des opérations en Irak. Rutba, à plus de 400 km à l'ouest de Bagdad, est située sur la route principale reliant la capitale irakienne à la frontière de la Jordanie. La ville est tenue par l'État islamique depuis 2014. Campagne électorale aux États-Unis, le président américain Barack Obama est sorti hier de sa réserve. Il a livré une critique en règle du populisme de Donald Trump, le candidat présumé du parti républicain au présidentiel de novembre, sans toutefois le nommer. Nous retrouvons Lionel Gaïma.
C'était lors d'une cérémonie de remise de diplôme à l'université Rutgers près de New York. Barack Obama a dit aux étudiants de ne pas regretter un hypothétique âge d'or américain, rappelant que ce beau vieux temps n'était pas si bon, citant les discriminations raciales, la pauvreté ou la place des femmes. Il a ajouté aujourd'hui, le monde est plus interconnecté que jamais et construire des murs n'y changera rien. Une allusion à celui qui veut ériger un mur à la frontière avec le Mexique. Sans jamais citer son nom, Barack Obama a noté qu'aucun mur ne pouvait arrêter les épidémies de Zika ou d'Ebola. Pour le président américain, isoler ou dénigrer les musulmans ou suggérer qu'ils soient traités différemment aux frontières, c'est aller à l'encontre des valeurs américaines. Pour conclure, il a dit aux étudiants qu'en politique comme dans la vie, l'ignorance n'est pas une vertu. Il a ajouté que ce n'est pas cool de ne pas savoir de quoi vous parlez. Cela n'a rien à voir avec être franc ou dire la vérité. Pour le reste, suivez mon regard.
Afghanistan, la capitale Kaboul, était complètement paralysée aujourd'hui par une manifestation de milliers de Hazaras, une minorité chiite, contre le tracé d'une future ligne à haute tension qui ne passe pas par leur fief. Cette mobilisation pourrait dégénérer en une crise politique qui accentuerait les difficultés d'un gouvernement déjà affaibli par le marasme économique et l'insurrection des talibans. Et pour terminer, tremblement de terre aujourd'hui en mer Rouge au large des côtes égyptiennes dans le golfe d'Aqaba. Aucun dégât n'a été signalé dans l'immédiat. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.